Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Loïc Bussière.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, votre rendez-vous hebdomadaire. Retour comme chaque vendredi à 7h sur les temps forts de l'actualité de la semaine à travers le regard des rédactions en langues étrangères, les RFI. Avec nous ce soir dans le studio des RFI Soir pour la rédaction hispanophone, Raphaël Moran, bonsoir.
Hola, buenas noches.
Bisay Pisaimam est de la rédaction cambodgienne, Jean Bafouille est avec nous également, bonsoir. Également avec nous, Xenia Goulia de la rédaction russe, bonsoir. On revient avec vous sur le feuilleton, on peut le dire, qui aura rythmé l'actualité de cette semaine, le dossier des Panama Papers. Vaste enquête, rappelons-le, menée par le Consortium international des journalistes d'investigation et qui éclabousse de très nombreuses personnalités et grands groupes à travers le monde. Enquête qui touche, entre autres, le continent américain, des États-Unis à l'Argentine. Raphaël Moran, on lisait, ce dossier des Paradise Papers épingle de nombreuses personnalités, des milieux politiques, entrepreneuriales, politiques, des artistes également. Raphaël, quelles sont les personnalités mises en cause sur votre continent?
Alors, on peut se centrer sur le ministre argentin des Finances, qui est l'homme politique en Amérique latine le plus, avec les responsabilités les plus importantes, qui a été mis en cause par les révélations. C'est l'actuel ministre des Finances du gouvernement de Mauricio Macri, Luis Caputo. Le journal argentin La Nation a mené l'enquête. Il s'avère que juste avant d'être ministre, eh bien, il a administré pendant 6 ans un fonds d'investissement américain qui possédait des sociétés offshore aux îles Caïmans et dans l'état américain du Delaware. Luis Caputo gérait également un hedge fund, ces fonds d'investissement à haut risque qu'on appelle aussi les fonds vautours, que les Argentins connaissent bien. En soi, Luis Caputo avait tout à fait le droit de gérer ces entreprises. Il n'était pas ministre à l'époque. Il affirme d'ailleurs pour sa défense qu'il a démissionné de ses fonctions lorsqu'il a pris les rênes des finances argentines et qu'il a payé ses impôts pour concernant les honoraires qu'il touchait pour ses activités. Sauf que là encore, si apparemment tout est légal, un problème éthique se pose. Juste après avoir démissionné de ses fonctions de gérant de ce fonds vautour, Luis Caputo a été précisément chargé par le gouvernement argentin de renégocier la dette du pays avec des fonds spéculatifs. Par ailleurs, Caputo s'était bien gardé de déclarer qu'il avait travaillé pour des entreprises offshore, mais il est vrai que la déclaration patrimoniale ne l'y oblige pas. L'opposition argentine a tout de même réclamé sa démission. Alors tout cela, eh bien, ça illustre les liens étroits entre l'actuel pouvoir argentin et la finance offshore. On rappelle que le président argentin Mauricio Macri a possédé des entreprises dans des paradis fiscaux, mais il a été blanchi par la justice.
Alors, Raphaël, dans les autres pays du continent américain, est-ce qu'on a parlé également des Paradise Papers?
Oui, en Colombie, notamment. La chanteuse colombienne Shakira apparaît dans les Paradise Papers avec une fortune de plus de 30 millions d'euros placée sur l'île de Malte. Elle paye très peu d'impôts. Président Santos aussi est cité dans les Paradise Papers comme co-gérant d'une entreprise offshore d'assurance dans le secteur de l'éducation. Il a quitté ses fonctions dans les années 2000, donc bien avant son mandat de président, mais et en plus il affirme qu'il n'a pas touché un centime pour cette fonction. Plus gênant, aux États-Unis, le secrétaire américain au commerce, Wilbur Ross, est encore actionnaire d'une entreprise de transport maritime qui a pour client l'entreprise vénézuélienne pétrolière PDVSA, sans sanctionné par l'administration Trump. Là encore, le secrétaire américain au commerce a insisté sur la légalité de ses investissements et il affirme qu'il soutient les sanctions contre le Venezuela.
Et puis au Mexique, hein, c'est l'hebdomadaire d'investigation Proceso qui a mené l'enquête et la liste d'entrepreneurs qui ont déplacé leurs activités financières dans des paradis fiscaux est longue.
Oui, l'hebdomadaire Proceso a recensé les noms de 62 grands entrepreneurs, parmi les plus grandes fortunes du Mexique, des footballeurs aussi, qui préfèrent le soleil de l'île de Malte en Méditerranée pour domicilier leur fortune plutôt que le Mexique. D'autres ont des activités à la Barbade où le taux d'imposition ne dépasse pas les 5%. L'administration fiscale mexicaine a promis d'enquêter à la suite de ces révélations et de procéder éventuellement à des régularisations en cas d'évasion fiscale.
Merci Raphaël Moran. On se dirige vers la Russie à présent avec vous, Xenia Goulia. Est-ce que l'onde de choc des Paradise Papers est arrivée jusqu'à Moscou?
Il y a assez peu de Russes cités dans les Paradise Papers, alors qu'il y en avait beaucoup lors des Panama Papers. Roman Anin, journaliste d'investigation au quotidien Novaya Gazeta, explique pourquoi.
На этот раз, в отличие от панамских документов, россиян в архиве было немного. Граждане России не входили даже в топ-10 тех стран, которые обслуживались в Appleby. А крупнейшими пользователями услуг этой компании были люди из Америки и из Великобритании.
La Russie ne figure même pas dans le top 10 des pays d'où viennent les clients de Appleby, ce cabinet d'avocats des Bermudes au cœur de révélations. En fait, Appleby ne voulait pas travailler avec des gens de mauvaise réputation et sa porte donc était souvent fermée pour les Russes mêlés à des affaires de corruption.
Alors, les Paradise Papers apportent tout de même de nouvelles preuves des liens entre l'entourage de Donald Trump et la Russie. On apprend notamment que le secrétaire au commerce des États-Unis, Wilbur Ross, on l'évoquait à l'instant, un proche de Donald Trump, fait des affaires avec l'entourage de Vladimir Poutine.
Oui, il possède toujours des intérêts dans une compagnie de transport maritime qui coopère avec une compagnie énergétique russe, Sibur. Cette société, Sibur, est contrôlée par deux oligarques très proches de Poutine. Ils sont d'ailleurs sous le coup des sanctions occidentales. L'autre actionnaire, c'est le gendre supposé de Poutine, Kirill Chamalov. Ross assure que tout est légal, mais il a quand même caché ses informations au Congrès.
Et puis autre information dérangeante pour la Maison-Blanche, la Russie avait placé des fonds dans Facebook et dans Twitter.
Oui, le milliardaire russe Yuri Milner avait investi des centaines de millions de dollars dans la high-tech américaine vers 2011. Une partie de cet argent provenait des sociétés russes proches du pouvoir, la banque VTB et une filiale de Gazprom. À l'époque, Milner était l'associé du gendre de Donald Trump, Jared Kushner.
Ces informations, elles interviennent alors que le Congrès américain lance une enquête sur le rôle de la Russie et de Facebook et de Twitter dans la propagation des rumeurs lors de la campagne électorale de 2016.
Côté russe, on assure qu'il ne s'agit pas de la politique, mais du pur business. Milner et ses partenaires ont effectivement revendu leur part dans Facebook et Twitter encore en 2012. Ils ont gagné comme ça beaucoup d'argent. Rien n'indique que Milner est lié à la campagne russe sur les réseaux sociaux avant les élections aux États-Unis, mais la presse américaine y voit quand même l'argent du Kremlin et une stratégie d'État russe. Selon le journal économique Vedomosti, ces informations pourraient être utilisées pour sanctionner davantage Moscou.
Alors Pissay, Mam, je me tourne vers vous. Il faut noter que ce scandale des Paradise Papers est différent de celui des Panama Papers. Avec les Panama Papers, on parlait essentiellement d'évasion fiscale et des sources illicites de revenus, alors que dans les Paradise Papers, on se concentre surtout sur le cas d'optimisation fiscale qui sont légales.
Oui, en effet, il est très important de ne pas confondre entre les deux cas, l'optimisation fiscale et fraude fiscale. Il existe deux formes d'optimisation fiscale. La première, c'est l'optimisation simple, souvent encouragée par la loi, notamment l'exonération fiscale des dons faits aux associations caritatives. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'optimisation fiscale agressive. Il s'agit d'utiliser de façon abusive les failles des législations afin d'éviter les impôts. Une fraude est illégale, mais optimisation n'est pas illégale. C'est ce que nous révèle les Paradise Papers. Ces multinationaux et ces individus ont recours aux cabinets spécialisés pour faire des montages fiscaux très complexes afin de payer le moins possible les impôts, voire rien du tout, et tout cela dans la légalité.
Voilà, pour résumer, donc, ce que vous dites, les opérations dont on parle sont légales. Du point de vue moral, en revanche, on peut tout de même trouver à dire.
Oui, tout le débat est là. Est-ce que, au nom du moral, on peut condamner ces entreprises ou ces individus faisant de l'optimisation fiscale? Les entreprises concernées disent que c'est parfaitement légal, c'est tout à fait dans le droit, mais il n'en demeure pas moins que ça soit immoral du point de vue de tous les contribuables. L'optimisation fiscale est aussi injuste par rapport aux petites et moyennes entreprises. Il n'y a que des grandes firmes comme Google, Amazon, Apple ou Engie qui peuvent s'offrir ce service. D'un côté, les PME ne cessent de subir les charges, les taxes de plus en plus lourdes. De l'autre côté, les grands groupes expatrient leurs bénéfices vers les territoires de paradis fiscaux. Au final, c'est le manque à gagner pour l'État.
Alors c'est justement sur ces questions des paradis fiscaux que l'Union européenne s'est réunie en urgence mardi, à la demande de la France d'ailleurs. Et qu'est-ce que peut envisager surtout la Commission européenne?
Oui, pour le moment, rien n'est défini, mais vu la pression médiatique après un tel scandale, la Commission doit faire preuve de beaucoup d'efforts. L'enjeu est d'aboutir à une liste de pays pratiquant le paradis fiscal. Actuellement, il n'existe que une liste officielle de l'OCDE dans laquelle contiennent que deux pays, le Trinidad et le Tobago. Selon les informations obtenues par le journal Le Monde, 12 pays seront fichés dans la liste noire de l'Union européenne, dont la plupart sont des territoires sous tutelle britannique. En tout cas, l'Irlande, les Pays-Bas, Luxembourg ou Malte ne feront sûrement pas partie de cette liste. C'est pourtant ces pays membres de l'Union européenne qui participent activement dans l'évasion et l'optimisation fiscale. L'Union européenne reste une jungle en matière fiscale, car cela relève du sol national. Il faut surtout harmoniser davantage les règles fiscales. Il faut faire en sorte que l'Union européenne puisse imposer l'obligation de transparence en matière fiscale.
On reste avec vous justement, Pissaïma, mais on change de sujet. Vous revenez sur l'arrestation le 3 septembre dernier de Kem Sokha pour trahison. Kem Sokha, c'est le chef de l'opposition au Cambodge et son parti est menacé d'être dissolu. Que s'est-il passé, Pissaï, depuis ce 3 septembre?
Oui, Monsieur Kem Sokha est toujours en état d'arrestation, en attendant toujours son procès, sans savoir quand exactement. Il est évident que le premier ministre Hun Sen essaye de faire barrage au parti d'opposition lors de la prochaine élection législative prévue en juillet 2018. Après l'arrestation sans fondement de son chef, l'opposition est menacée de disparaître. Un procès jugeant la dissolution de l'opposition est prévu le 16 novembre prochain. En attendant, M. Hun Sen a tenté de causer des crises en interne de l'opposition en proposant le membre de déserter. On va l'écouter. Alors, M. Hun Sen, avec ses mots toujours grossiers et vulgaires, a dit que je vous propose une occasion, une opportunité pour monter plus haut, mais si vous ne voulez pas, alors allez-vous en enfer. En effet, depuis quelques semaines, certains membres de l'opposition qui se doutent de leur avenir politique et peut-être aussi tentés par l'offre financière ont décidé de s'intégrer dans le parti de M. Hun Sen.
Alors, Pissaïmam, le parti CNRP de Kem Sokha, c'est le seul parti d'opposition crédible face au parti de Hun Sen pour la prochaine élection. On constate que la communauté internationale reste assez timide pour prendre position, en tout cas pour prendre une position qui condamnerait le gouvernement cambodgien.
Oui, c'est vrai. Seuls les États-Unis semblent s'intéresser plus, d'une part parce qu'elles se sont impliquées directement par l'accusation que le gouvernement cambodgien veut faire porter à M. Kem Sokha, et d'autre part, les ONG et les médias américains, très détestables aux yeux du pouvoir de Phnom Penh, se sont directement visés par M. Hun Sen. Monsieur Ted Cruz, sénateur américain, a envoyé une lettre à l'ambassade du Cambodge à Washington, demandant à Phnom Penh de libérer Monsieur Kem Sokha le 9 novembre. C'était hier. Il a promis de mobiliser le Congrès pour sanctionner le gouvernement cambodgien. Sinon, les États-Unis ne reconnaîtront pas l'élection en juillet 2018. Mais ce matin même, avant de partir pour le sommet APEC à Da Nang, Monsieur Hun Sen déclare qu'il organisera l'élection comme prévu, peu importe les avis des autres pays.
Vous écoutez Action du Monde sur RFI. Et en cette veille de 11 novembre, en France, le souvenir de la Première Guerre mondiale se rappelle à la mémoire collective. En Russie, c'est dans la discrétion, en revanche, que l'on célèbre le centenaire de la Révolution d'octobre 1917. Le pouvoir actuel ne sait pas pourquoi, ne sait pas quoi faire, surtout avec cet héritage qui divise la société, Xenia Goulia. Pourquoi est-ce que le Kremlin est-il si mal à l'aise vis-à-vis de cette révolution?
Eh bien parce qu'ils ne savent pas comment aborder ce sujet. Est-ce qu'il faut célébrer la gloire de la révolution ou commémorer ses victimes? Le Kremlin préfère rester neutre. Je vous propose d'écouter Emilia Kustova, maître de conférence à l'université de Strasbourg et spécialiste de l'histoire russe. Elle explique que les élites n'arrivent pas à trouver un discours pour célébrer les révolutions. Ils l'ont trouvé pour la Seconde Guerre mondiale, qui est devenue un vrai outil de propagande qui représente la Russie victorieuse, puissante. Mais la révolution, c'est une autre chose. C'est très inconfortable. Et l'idéologie actuelle en Russie, c'est quoi? C'est la stabilité et la force de l'État, une sorte de fusion entre l'État et le peuple. Et la révolution, c'est tout le contraire.
Alors, Xenia, la révolution, c'est un sujet délicat. En revanche, on assiste en Russie à une vague de nostalgie de l'URSS et de l'Empire des tsars. C'est paradoxal.
C'est vrai, et les élites cultivent ces contradictions. Elles veulent être à la fois les héritières de l'URSS, en s'opposant systématiquement à l'Occident, par exemple, mais aussi les héritières de l'Empire russe, en affirmant, par exemple, l'importance de l'Église.
Alors, Ksenia Goulia, il y a tout de même quelques initiatives pour commémorer la part sombre de cette histoire russe. Fin octobre, Vladimir Poutine a inauguré à Moscou un mur du chagrin. C'est un mémorial en hommage aux victimes des répressions politiques. C'est même le premier monument du genre en Russie.
Oui, mais pour les anciens prisonniers politiques et les dissidents soviétiques, c'est de l'hypocrisie d'État. Pour eux, c'est amoral de commémorer les victimes de répression stalinienne tout en continuant d'opprimer l'opposition. Selon l'ONG Mémorial, aujourd'hui, il y a 117 prisonniers politiques en Russie. Écoutons la représentante de cette association, Irina Flegué. Elle explique que la Russie n'a pas fait un travail de mémoire comme l'a fait l'Allemagne après le nazisme. C'est pour ça que les répressions ne sont jamais rentrées dans l'histoire. On connaît qu'un quart de victimes de Staline et les archives sont à moitié secrètes.
Merci Ksenia Goulia pour cet éclairage. L'un des sujets qui a occupé la rédaction Amérique latine à présent d'RFI cette semaine, c'est la situation financière du Venezuela. Caracas au bord du défaut de paiement. Cela pourrait même se produire dès ce week-end si le Venezuela n'honore pas l'un de ses remboursements. Raphaël Morane, première question, pourquoi est-ce qu'un pays pétrolier comme le Venezuela est-il endetté au point de ne plus pouvoir payer ses dettes ?
Eh bien, le Venezuela effectivement possède les premières réserves de pétrole du monde. L'augmentation, il a beaucoup profité de l'augmentation des prix du baril dans les années 2000. Il s'est enrichi. Le pays a vécu sur cette rente et a donc massivement développé les services sociaux grâce à ses ressources, mais a également négligé son tissu productif national. En dehors de l'exploitation pétrolière, le Venezuela produit peu et importe tout. Or, depuis que le cours du pétrole a brutalement baissé, le pays n'a plus les moyens de financer ses importations. Les pétrodollars ne rentrent plus dans les caisses et le pays s'est endetté. La dette a été multipliée par 5 depuis 2007. On estime à environ 150 milliards de dollars la dette extérieure du Venezuela. La majeure partie de cette dette est détenue par des investisseurs internationaux, à 70% par des fonds nord-américains, états-uniens et canadiens, mais aussi par des fonds russes et chinois, des pays alliés de Caracas.
Alors le président Maduro a annoncé qu'il engageait un plan de restructuration et de refinancement de sa dette extérieure. Cela va être très compliqué à cause des sanctions financières de Washington.
Oui, depuis l'élection controversée d'une assemblée constituante totalement chaviste et qui a dépouillé de ses pouvoirs l'Assemblée nationale, qui était plutôt dominée par l'opposition, Washington a décrété des sanctions financières contre le Venezuela. Et résultat, les entreprises américaines et les citoyens américains ont interdiction de prêter de l'argent au gouvernement vénézuélien et à l'entreprise pétrolière PDVSA. Autrement dit, Caracas n'a plus accès aux marchés financiers américains. Il sera difficile, voire impossible de renégocier sa dette avec les fonds américains. Mais Nicolas Maduro va également rencontrer d'autres difficultés pour renégocier la dette extérieure de son pays. C'est ce que nous expliquait Humberto Larralde, un économiste vénézuélien. On l'écoute. Il nous explique que la marge de manœuvre du gouvernement vénézuélien, la marge de renégociation est quasi nulle, non seulement parce que l'équipe désignée pour renégocier la dette est elle-même sous le coup des sanctions diplomatiques de Washington, et surtout parce que pour renégocier sérieusement la dette, le Venezuela aurait besoin de s'appuyer sur un organisme international. Or, le pays a coupé ses contacts avec le FMI depuis 10 ans, et pire, le Venezuela n'a aucune garantie productive pour l'instant à offrir à ses créanciers car son économie est en ruine. Les conditions sont donc très différentes du début des années 90 quand le Venezuela avait déjà renégocié sa dette extérieure.
Merci Raphaël, on suivra cela de près bien évidemment ce week-end. D'ailleurs Caracas a donné rendez-vous à ses créanciers ce lundi pour ouvrir des négociations. Merci à vous trois, Raphaël Moran donc de la rédaction Amérique Latine d'RFI, Pissaïman de la rédaction cambodgienne, Ksenia Goulia de la rédaction russe. Merci pour cet éclairage donc sur cette semaine, l'actualité vue de vos rédactions. Merci également à Yann Bourdelas à la réalisation. C'était Accent du Monde. Dans quelques instants, le retour de l'info sur RFI.